Hello, bienvenue dans Boost à recherche d'emploi podcast. Je suis Vanessa Choubia, ingénieure chimiste de formation. Je travaille actuellement dans l'industrie cosmétique. Je suis également entrepreneuse sociale. Boost à recherche d'emploi est un rendez-vous mensuel pour discuter en toute simplicité des stratégies de recherche d'emploi. À chaque épisode, mes invités en toute humilité nous feront découvrir leur métier et les moyens qu'ils ont utilisés pour intégrer le milieu professionnel. Il ne s'agit pas ici de portraits de super-héros ou de modèles à suivre, mais j'espère qu'à travers leur parcours inspirant, vous y trouverez une bonne dose de motivation, ainsi que plein d'astuces pour mener à bien votre recherche de job, tout en ayant une bonne confiance en vous. Je vous invite à vous installer confortablement et vous souhaite une belle écoute. Prenez soin de vous.
Je reçois aujourd'hui Monica Dia Ducruet, senior manager dans le domaine des affaires réglementaires. Bonjour Monica.
Bonjour Vanessa, ravie d'être ici avec toi.
Oui, moi de même Monica, je suis très ravie de t'avoir sur le podcast pour quelques raisons que j'aimerais bien partager avec nos auditeurs. Donc la première, c'est que tu fais partie des premières personnes qui m'ont inspirée, en tout cas qui m'ont motivée à m'orienter dans le domaine des affaires réglementaires. On s'est rencontrés, je peux le dire, hein, c'était lors d'un entretien. Et du coup, j'ai été impressionnée par ton professionnalisme et le charisme, en fait, que tu avais. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être comme cette personne. Et en tout cas, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au sein du podcast.
Je suis ravie d'entendre tous ces compliments, Vanessa, et aussi de savoir que mon parcours, ou en tout cas notre rencontre, ait pu t'inspirer positivement dans ta carrière. Donc, c'est une bonne chose.
Génial. Alors, Monica, pour démarrer, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites.
Ok, très bien. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Monica Dia Ducruet. Je suis issue d'une fratrie de 9 enfants. Je suis aussi aujourd'hui ravie de dire que je suis la mère de 2 garçons formidables. Je suis née au Sénégal et j'ai rejoint mon pays d'adoption qui est la France à l'âge de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'être et fière de dire que je suis une franco-sénégalaise. Et ces deux pays sont vraiment très chers à mon cœur. Donc, que ça soit franco-sénégalaise ou sénégalo-française, c'est exactement pareil pour moi. Sur le côté professionnel, je pense que tu l'as mentionné aussi au début, j'occupe aujourd'hui le poste de responsable affaires réglementaires senior pour la division parfumerie fine d'un grand groupe international qui est leader dans le domaine des parfums et des arômes. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur moi.
Non, mais c'est très clair, très complet. Et du coup, Monica, pour parler un petit peu de ta carrière, j'ai pu remarquer qu'en fait, ça s'inscrit beaucoup dans le domaine de la cosmétique et du coup, notamment dans les affaires réglementaires. Parce qu'il me semble que tu as été, tu as fait plusieurs entreprises du domaine cosmétique et dans le domaine de la réglementation également. Et donc, du coup, je vais te demander pourquoi ces choix, qu'est-ce qui t'attire en fait finalement dans l'univers de la cosmétique? Est-ce que c'est une passion ou simplement c'était des opportunités qui se sont ouvertes à toi et tu les as saisies?
Oui, alors pour moi, il y a deux questions deux questions fondamentales dans ce que tu viens de dire. La première est pourquoi le domaine de la cosmétique et la deuxième, pourquoi le domaine du réglementaire? Donc, le domaine des cosmétiques, je dois avouer que c'est un domaine qui m'a toujours attirée. C'est le domaine de la beauté, aider à rendre une meilleure image, la meilleure image possible de soi-même. Et j'ai toujours voulu participer à ça et travailler dans ce domaine-là. En ce qui concerne l'aspect des affaires réglementaires, je dois avouer que ce n'a pas été un choix au départ, c'est plus un hasard. En fait, en 2006, j'ai effectué un master business engineering à l'école de biologie industrielle sur Clergy-Pontoise. Et ce master comportait un stage de 6 mois. C'est dans ce cadre-là, en fait, dans le cadre de ce stage-là, que je me suis retrouvée confrontée au monde des affaires réglementaires avec l'ambitieux règlement REACH. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est une réglementation européenne qui légifère sur les substances chimiques et qui est assez mondialement connue. Pour moi, cela a été finalement gérer l'implémentation de cette réglementation nouvelle a été plus une gestion de projet et c'est une aventure qui a duré pour moi 7 ans. C'était ambitieux, c'était challengeant, c'était complexe. Cela a impacté vraiment tous les domaines de l'entreprise et c'est ce que je dirais que c'était vraiment le début de ce qu'on appelle aujourd'hui les affaires réglementaires. Avant le règlement REACH, ça existait bien évidemment, mais c'était beaucoup moins important. Et les départements affaires réglementaires sont devenus plus stratégiques, sont devenus pour les sociétés, car cela impliquait des investissements vraiment faramineux et des décisions à long terme. Et c'est vraiment ce qui m'a attirée et passionnée dans ce domaine, c'est que finalement, les affaires réglementaires, c'est assez complet, ça touche à tout. Ça va de c'est de la science, la stratégie, la gestion de projet. Ça va de la communication aussi au marketing et cela nécessite de maîtriser vraiment la vision de l'entreprise et de sa supply chain. Donc c'est assez complet et c'est assez varié. Donc voilà.
Génial, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que des fois, quand on parle d'affaires réglementaires, souvent, en tout cas de façon général, les gens ont l'impression que c'est un métier où on est un peu tout ça dans son coin. Des fois, on entend dire qu'on étudie, qu'on traite des normes. On entend souvent beaucoup ces abus de langage. Et c'est intéressant comme ça d'avoir ce partage sur le fait que voilà, ce soit un métier vraiment complet, un métier qui demande aussi beaucoup de collaboration. On est en contact avec différentes entités au sein d'une entreprise et je trouve ça assez intéressant en tout cas d'avoir un témoignage de quelqu'un aussi senior et qui apporte aussi cette visibilité finalement qu'on a très peu au niveau de ce métier des affaires réglementaires. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail de ton parcours professionnel, donc, comme tu le sais, en fait, ce podcast, en fait, finalement, je l'ai fait dans l'optique de vraiment partager avec le plus grand nombre, notamment les plus jeunes, un petit peu les difficultés, les challenges qu'on a eu, qu'on a vécu au moment de rentrer dans le milieu professionnel, ou même tout au long, de sa carrière, hein, finalement, pour aider les personnes, mais surtout aussi partager les tips, en fait, finalement, ce qui a marché, qu'est-ce qu'on a mis en place. Parce que c'est vrai que, c'est bien de célébrer nos réussites, c'est même très, très important pour pouvoir tenir le coup sur la durée. Mais je pense aussi, comme sûrement toi aussi, tu me diras si tu partages mon avis, que c'est vraiment dans l'adversité, un peu dans le dur comme ça qu'on apprend, qu'on se fait le cuir et que finalement on devient une personne meilleure.
Oui, c'est exactement ça, Vanessa. Je peux pas être plus d'accord avec toi sur ces points-là parce que pour moi l'expérience, les rencontres qu'on fait, qu'elles soient positives ou négatives, elles forgent notre personnalité au fil du temps. Et c'est ce qui nous permet vraiment d'évoluer et d'atteindre un certain niveau de maturité et d'expérience dans quel que soit le domaine en fait dans lequel on est. Donc c'est vraiment important ce que tu viens de dire, oui.
Ouais, tout à fait. Et comme ça, pour partager avec toi parce que ce matin je suivais une interview de Tony Nadal, tu sais l'oncle du tennisman Nadal, et donc qui a été son entraîneur, son mentor, et il disait une phrase qui m'a marquée depuis ce matin. Il disait le talent s'acquiert dans le calme et la résilience, le mental en fait, ça s'acquiert dans la tempête. Et j'ai trouvé ça assez fort, et je t'avoue que depuis je l'ai noté quelque part, je me suis dit mais c'est tellement fort de sens, c'est tellement vrai. Et voilà, et je pense que tu partages aussi complètement ce point. Donc, j'en suis ravie.
Oui, exactement. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que le mental, pour moi, c'est quelque chose qui s'acquiert tout au long de la vie. Et c'est plus on est confronté à des moments compliqués, à des challenges, et plus on est poussé à sortir un peu de sa zone de confort, plus on va contribuer à renforcer ce mental. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inné un peu, mais ça se travaille, ça s'entretient. Et c'est pour ça que je pousse toujours mon équipe, en tout cas celle que j'ai aujourd'hui, à aller toujours aller plus loin, à essayer d'aller plus loin, à penser autrement et à sortir, surtout à sortir de sa zone de confort. Et c'est le seul moyen pour moi de progresser.
Génial. Et du coup, par rapport à tout ça, Monica, j'avais une question pour toi. C'est de savoir quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début de ta carrière ou même encore à présent. Et comment tu fais pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu mets en place justement pour aller au-delà de tout ça?
Oui, alors comme je le disais au début, moi j'ai démarré ma carrière sur cette réglementation, sur l'implémentation de REACH, donc c'était la mise en conformité européenne, et c'était une réglementation, je dirais, à peine votée. Et ça l'est toujours la réglementation la plus exigeante au monde en termes de données, d'évaluation de la sécurité pour ceux qui sont un peu dans ce domaine-là, d'utilisation. J'étais une jeune étudiante sortie d'école, donc le challenge pour moi était vraiment de faire comprendre à la direction du groupe pour lequel je travaillais à l'époque l'impact de cette nouvelle législation sur notre activité et surtout de pouvoir influencer sur ce que nous devions mettre en place pour faire face à ces nouvelles exigences. Ce n'était pas facile, mais j'avais la chance d'avoir un bon manager à l'époque aussi, qui a su m'accompagner dans ce voyage et qui a su, au tout temps, aussi me donner assez de liberté finalement pour m'exprimer. Je suis quelqu'un qui est assez autonome, donc finalement, ça m'allait très bien de pouvoir disposer aussi de cette liberté-là pour trouver la place pour moi-même pour m'exprimer. Juste une anecdote par rapport à ça, je me souviens de la première participation à une réunion d'une de nos associations professionnelles, donc c'était au niveau européen, donc ces réunions ont souvent lieu à Bruxelles ou dans un des pays européens. Je suis rentrée dans cette salle qui était remplie de messieurs d'un certain âge, tous blancs. C'était des grands chimistes, des ingénieurs experts dans leur domaine. Et j'avoue que du haut de mes 26 ans, j'étais assez impressionnée et j'avais peur de surtout ne pas être au bon endroit et de ne pas être assez pertinente dans ce groupe de travail, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis ressortie, j'ai soufflé un bon coup et je me suis dit, de toute façon, t'as pas le choix, ça fait partie de tes responsabilités, de ta job description, donc il faut que tu y ailles et il faut que tu sois brillante. Donc je suis rentrée dans cette salle et finalement, j'ai un très bon souvenir de tous ces meetings que j'ai pu avoir avec ces personnes, ces échanges d'idées, de construction d'outils pour mener à bien vraiment les premières étapes de REACH pour notre industrie. C'était enrichissant et ouais, c'est une période où j'ai beaucoup appris en fait auprès de ces personnes-là et comme quoi en fait on peut tirer parti de tout et à partir du moment où on reste authentique et je pense fidèle à soi-même, il y a vraiment la possibilité de pouvoir progresser et d'apporter sa touche. Donc en effet, rien n'est vraiment facile, mais être à l'écoute, communiquer, échanger, Je pense que ça permet vraiment de s'intégrer et de trouver la meilleure approche, en fait, et de participer activement, quelle que soit la tâche qui nous est donnée.
Génial. Franchement, c'est très intéressant ce que tu partages là. Et du coup, en fait, là, tu mets le doigt sur un point, je pense que tout jeune, quand il sort de l'école et qu'il commence à travailler vie, c'est vraiment... Et même aussi pendant certains moments, notamment aussi quand on est femme, hein, enfin, donc c'est souvent quand on est jeune et aussi quand on est une femme, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mmh. Où t'as l'impression à chaque fois de pas être légitime, en fait, finalement. Et donc, du coup, par rapport à ça, puisque toi, tu l'as vécu, et tu l'as très bien expliqué, où tu t'es dit, bah, en fait, faut que j'y aille et faut que je sois brillante. Et du coup, par rapport à ça, quels sont les conseils que tu donnerais, en fait, pour justement moins souffrir de ce syndrome de l'imposteur et pouvoir oser s'affirmer, y aller?
Alors, je sais pas si on peut s'affranchir complètement de ce syndrome-là, parce que je pense qu'il est tellement ancré. En tout cas, chez la femme, chez certaines femmes. En tout cas, ce qui a fonctionné pour moi et ce que je conseille de manière générale à mon équipe, c'est de connaître ces dossiers, d'être un expert dans son domaine. Donc, l'expertise, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, certes, mais de s'obliger à maîtriser un dossier avant d'aller le défendre et de ne pas parler pour ne rien dire, surtout. Pour moi, vaut mieux le silence est très important. Garder le silence quand on n'a pas une intervention, qui soit vraiment utile, c'est très bien. Je ne suis pas, ce que je n'aime pas ou ce que je conseillerais pas, c'est de vouloir intervenir juste pour intervenir parce que on perd de la crédibilité et cela nous aide pas finalement dans le temps. Vaut mieux avoir quelqu'un qui va parler très peu, mais qui va avoir des remarques qui vont marquer. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de privilégier. Mais pour résumer, en gros, pour moi, c'est être sûr de soi, de ce qu'on dit, et ou alors le formuler de telle manière à ce que on soit dans l'échange, dans la communication et pas dans l'affirmation. Donc ça, c'est vraiment très important, la maîtrise de ces dossiers, être dans la communication et ne pas aussi hésiter finalement à rester très humble et à demander de l'aide quand on en a besoin, quand on sent qu'on manque d'expertise sur un domaine. Il y a toujours des aînés, il y a toujours des gens qui nous entourent et qui peuvent nous aider à progresser dans ce qui peut nous manquer. Donc c'est ça, le relationnel, l'honnêteté, l'authenticité, la communication ouais, c'est ça. Et c'est, pour moi, ce sont les qualités qui sont fondamentales dans ce domaine-là.
Très bien, c'est très clair. Merci pour ces conseils. Et est-ce que tu vois comme ça d'autres challenges que tu as eu? Parce que là, du coup, tu nous as parlé d'un challenge vécu au moment où tu as commencé ta carrière. Mais est-ce que plus tard, comme ça, il y a eu des choses qui se sont mises sur ton chemin et pour lesquelles tu as dû revoir un petit peu ton approche? Est-ce que tu penses à d'autres choses?
Alors, je dois dire que une carrière, c'est vivant et c'est une adaptation perpétuelle. Donc, des challenges, on en aura toujours. Donc, j'en ai rencontré plusieurs. J'en ai rencontré aussi quand je suis passée de collaborateur à manager, parce que ça nécessite de revoir fondamentalement sa manière de travailler. Donc, on passe d'un peu du doueur, du player à celui qui va coordonner, qui va coacher, qui va faire évoluer son équipe. Donc ça demande forcément une adaptation. Donc c'est des challenges à relever. Les autres challenges que j'ai pu rencontrer aussi, c'est quand on change de société tout simplement et qu'on doit de nouveau connaître un peu, maîtriser l'organisation de cette société, connaître la manière dont tout est structuré, comment tout est interconnecté, et de nouveau refaire un peu son, oui, ses preuves, parce que dans cette nouvelle société, on est d'accord qu'on a été recruté pour un poste donné, donc il y a certains de nos, des critères de départ qui sont remplis, mais on est quand même, on doit quand même faire ses preuves par rapport à de nombreuses personnes. Et encore une fois, ça reste quand même un challenge. Et aujourd'hui, juste dans le domaine des affaires réglementaires, pour parler un peu plus de l'aspect vraiment travail, c'est un domaine en perpétuelle évolution. Les textes réglementaires sont très évolutifs, sont très dynamiques. Ils deviennent de plus en plus complexes. Et ils sont de plus en plus connectés ou liés par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres pays. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir cette vision large, globale, quand on est à un certain niveau, pour vraiment comprendre la dynamique qui se passe autour de ces différentes législations et pouvoir anticiper, mettre en place des stratégies de défense. Donc oui, des challenges, il y en a eu beaucoup et il y en aura encore beaucoup, mais pour moi, c'est ce qui me fait aussi vibrer dans l'activité des affaires réglementaires, c'est que on s'ennuie jamais. On a à peine le temps de commencer à comprendre le fonctionnement d'un texte de certaines autorités qu'on doit déjà passer à un autre niveau. Donc, c'est super quand on est à la recherche de challenges à relever au quotidien. J'espère que cela répond à ta question, Vanessa.
Oui, très bien, Monica. En plus, c'est génial parce que tu vends super bien notre métier. Donc, vraiment, ça donne envie. En tout cas, j'espère que les personnes qui nous écouteront vraiment auront envie de découvrir, ou en tout cas, vraiment, ça créera des vocations, des émulations. C'est la raison pour laquelle voilà, je tenais à avoir cet échange avec toi dans ce cadre, et juste ici, je suis vraiment ravie.
C'est super, parce que c'est un domaine qui est complètement évolutif et qui recrute énormément. Les départements réglementaires ont doublé, voire quadruplé de volume, de taille en termes de ressources sur les 10-15 dernières années, parce que la demande, l'exigence en fait est là, et elle va faire que croître. Aujourd'hui, on se doit de maîtriser complètement la supply chain, et les affaires réglementaires sont complètement intégrées là-dedans. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un produit ou une substance dont on ne connaît pas grand-chose. On doit complètement maîtriser le profil de ces ingrédients, de ces produits. Donc, oui, c'est un domaine en pleine expansion et qui est changeant. Donc, il n'y a pas de profil type. Honnêtement, il y a de la place pour tout le monde.
Très clair, génial. Et je souhaiterais, s'il te plaît, qu'on revienne finalement aux deux challenges que tu as cités tout à l'heure, à savoir le moment où tu es passé de collaborateur à manager, et également quand tu as changé d'entreprise, où voilà, il a fallu s'adapter, comprendre la nouvelle entreprise que tu rejoignais. Et quels sont les éléments que tu as mis en place à ces moments-là de ta vie, à ces moments dans cette période un peu charnière de ta vie, pour pouvoir justement réussir?
Quand je suis passée déjà quand j'ai changé de société, pour moi, quand je suis arrivée, c'était il y a 6 ans dans cette société qui est leader des parfums et arômes. Quand j'y suis arrivée il y a 6 ans, la première chose à faire, c'était vraiment d'observer la dynamique de la société, sa vision, son fonctionnement. Et ensuite, c'est vrai que j'ai été recrutée pour une activité assez spécifique, puisqu'ils venaient d'acquérir des sociétés et ils avaient besoin de mon expertise pour créer une équipe qui serait en charge de gérer la conformité réglementaire de cette nouvelle structure, de cette nouvelle activité-là. Donc, tout était à bâtir, je dirais, de vraiment on partait de zéro. Et c'est quelque chose que j'adore aussi. C'est complètement quelque chose qui me fait vibrer, qui me passionne. Et après avoir observé, écouté et compris exactement ce qu'on attendait de moi, j'ai pu mettre en place cette équipe qui a totalement répondu aux attentes. L'écoute encore une fois et la communication ont été fondamentales et la compréhension des attentes ont été fondamentales dans ce cadre-là. Ensuite, quand je suis passée manager, ce qui a été le challenge là, c'était d'avoir tout un différent style ou je dirais différents types de caractères et de profils dans mon équipe. J'ai eu la chance d'avoir des PhD avec 30 ans, 40 ans d'expérience dans le domaine à manager. J'ai eu des jeunes, vraiment des juniors que j'ai recrutés moi-même et que j'ai dû intégrer dans l'équipe. Et d'autres personnes avec une expérience médiane. Donc, l'idée, c'était pour moi vraiment d'adapter mon style de management en fonction des personnes que j'avais en face. Et là, encore une fois, c'était vraiment faire preuve déjà d'écoute pour pouvoir vraiment savoir qui on a en face de soi, quelles sont les attentes de cette personne-là, et comment on peut engager cette personne à contribuer effectivement à la réussite du département. Donc en effet, c'était une période assez stressante pour moi parce que c'était ma première expérience de manager, mais assez effervescente, assez j'étais très heureuse. Ça, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment. Je pense que le résultat, en tout cas, obtenu était à la hauteur des attentes. Donc, finalement, c'est que je m'en suis pas mal trop sortie, je dirais.
Complètement d'accord. Et du coup, Monica, tu as dit quelque chose qui m'interpelle, c'est que tu dis que, enfin, là, tu anticipes un petit peu des questions que j'avais pour toi, à savoir justement pour toi, qu'est-ce qu'un bon manager? Parce que aujourd'hui, tu sais, on entend beaucoup parler de leadership et j'ai l'impression que, enfin, on mélange aussi un petit peu tout, leadership, management et tout ça. Et avant d'y revenir, tu as dit quelque chose que ton rôle, c'était de chercher à comment engager en fait tes collaborateurs, tes équipes justement pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et du coup, je vais te demander, est-ce que, parce que souvent on entend dire que très souvent les gens ne quittent pas une entreprise, mais quittent un manager, donc un mauvais manager entre guillemets. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que pour moi, la plupart du temps, les raisons pour lesquelles un employé peut quitter une entreprise, souvent ça peut être lié à un manque de sollicitations, etc. Mais ce qui peut être de toute façon lié finalement au type de management qu'on a. Donc pour moi, être un bon manager, c'est vraiment pouvoir donner une direction claire, une vision, un objectif à son équipe. C'est aussi savoir être à l'écoute, les soutenir et les faire évoluer. Ce qui est aussi très important et qu'on oublie, c'est de traiter les différents membres de son équipe de la manière la plus équitable possible. En effet, je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais c'est d'être capable d'adapter son style de management. Il n'y a pas un style de management. Il y a plusieurs styles de management. Et chaque manager, un bon manager doit être capable d'être flexible, d'être agile en adaptant son style par rapport aux besoins de son équipe. Et de chaque personne a des besoins différents. Il y en a qui vont avoir besoin d'avoir un manager qui va être très présent, qui va vraiment les guider pas à pas, et d'autres qui vont être complètement autonomes, qui savent, qui ont juste besoin d'avoir une direction ou un objectif, et qui sont ensuite capables de se débrouiller complètement. Donc il y a tout ça. Bien sûr, c'est un peu plus complexe que ça, mais déjà d'intégrer ça dans son style, dans son management, je pense que ça peut vraiment aider.
Et donc pour toi, en fait, finalement, le management, ça ne s'apprend pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des formations, il y a pas. Parce que, enfin, pourquoi je te pose la question, c'est que on voit fleurir ici et là pas mal d'écoles qui disent former au management. Et on voit également beaucoup d'étudiants qui, après une première formation, donc une formation initiale, vont tout de suite, par exemple, aller faire des spécialités management. Je ne parle pas de management de projet, mais vraiment, des fois, c'est du management général. Donc, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Ou pour toi, le management, c'est quelque chose qui s'apprend vraiment sur le tas et...
Alors, je pense qu'en effet, il faut distinguer les types de management. Il y a le management de, comme tu l'as dit, de projet, le management d'organisation, de département, ou le management de personnes. Et là, si on met le focus dans le management de personnes, je pense en effet que il y a des formations qui peuvent aider. Moi, j'en ai eu dans ma carrière, des formations qui donnent des outils, des clés pour vraiment pouvoir adapter, pour pouvoir affiner son style de management. Et ces formations, en fait, à la base, je sais pas si c'est à la base, mais elles permettent aussi de se connaître soi-même, en fait, de se connaître, de s'identifier soi-même, de mettre des noms sur ce qu'on est, sur certains de nos traits de caractère, et de prendre conscience de certains de prendre connaissance de vraiment de notre profil. Donc elles sont bénéfiques. Après, je pense que tu le sais, les formations, finalement, ça représente que 10% de l'apprentissage. Il y a 70% de l'apprentissage se fait en faisant. Learn by doing. Donc, du coup, pour moi, la partie la plus importante, une fois qu'on a ces éléments-là de base, ces grandes thématiques, c'est d'essayer de les appliquer. Et c'est vrai que je considère aussi qu'il y a beaucoup de choses dans le management qui s'apprennent en faisant, en fait, en étant en étant ouvert et en communiquant avec son équipe. Donc oui, pour moi, c'est un mélange des deux. Il y a l'apprentissage by doing et l'apprentissage via des trainings, des formations. Et moi, il y en a beaucoup qui m'ont aidé, en tout cas qui ont ouvert ma vision des choses sur comment gérer les équipes et les organisations aussi.
Ok. Et t'as partagé beaucoup de choses jusqu'ici. Monica, puisque j'allais te demander, est-ce que s'il y avait des choses à refaire aujourd'hui ou à faire différemment dans ton parcours, quelles seraient-elles? Enfin, déjà, est-ce que tu as des choses si tu avais le pouvoir de refaire, tu referais? Et si oui, lesquelles?
Alors, je pense que honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose que je referais. Parce que finalement, tout ce qui a pu se passer dans mon parcours, les rencontres, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, en effet, les postes que j'ai pu occuper, ont participé à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, non, je pense que tout a été utile. D'une manière ou d'une autre. Donc, que ça soit les rencontres positives ou des rencontres négatives, elles m'ont influencée d'une manière ou d'une autre. Et elles m'ont fait progresser. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a, dans mon parcours professionnel, il n'y a pas grand-chose que je changerais. J'aurais peut-être plus changé sur la partie, honnêtement, ça aurait été la partie éducation peut-être. La partie éducation, la partie scolaire, où j'aurais peut-être pas fait les 2 années de médecine. Mais voilà, je pense que ça aussi, finalement, ça a participé à m'amener là où je suis aujourd'hui.
Je suis complètement d'accord avec toi pour avoir fait moi aussi 2 années de médecine. Bon, sur le coup, on se dit mais pourquoi, mais au final, quand même, on se rend compte que ça nous a appris des choses, hein, la résilience, finalement, oui. L'endurance et tout, donc et puis plein d'autres choses. Donc finalement, comme tu disais aussi, que c'est comme des rencontres. Des bonnes, des mauvaises, bonnes expériences, mais on apprend toujours des choses de tout ça.
Exactement, exactement. On peut tirer du positif de chaque partie, de chaque situation. Il faut juste prendre le recul nécessaire.
Tu as donné déjà beaucoup de conseils, Monica, parce que j'allais te demander pour les jeunes qui souhaitent s'orienter dans le domaine des affaires réglementaires. Quels sont les conseils que tu donnerais? Là, tu as partagé déjà énormément de choses. Là, j'ai noté connaître ses dossiers, savoir communiquer, savoir comprendre les attentes, essayer d'avoir, de pas parler pour ne rien dire. Garder toujours cette humilité, cette authenticité, tous les aspects relationnels. Vraiment, t'as déjà dit des tas de choses très intéressantes. Est-ce que s'il y avait un truc à rajouter, notamment pour tous ceux qui souhaitent rentrer dans des milieux très sélectifs, par exemple le milieu dans lequel tu évolues aujourd'hui, l'univers de la parfumerie, c'est un univers glam qui fait rêver. Enfin, on a plein de jeunes qui veulent rentrer dans ces domaines-là qui sont très sélectifs. Par rapport à ça, est-ce que tu as des conseils?
Je vais donner un conseil plus général, pas forcément peut-être vis-à-vis des affaires réglementaires, mais pour moi, le plus important, c'est de ne pas hésiter à essayer de nouvelles opportunités, parce que finalement, on peut être très surpris. Et ensuite, en fonction de sa personnalité, accepter les challenges qui s'ouvrent devant nous. Moi, j'aime sortir des sentiers battus et amener un angle de vue nouveau. Et finalement, je pense que ça permet vraiment ça donne vraiment des opportunités. Comme je le disais au tout début, les affaires réglementaires, moi, j'y suis tombée un peu par hasard. C'est un domaine, je pense que avant d'y travailler, je l'aurais sûrement jamais choisi, surtout à l'époque où on imaginait les personnes qui travaillaient dans le domaine réglementaire comme des bureaucrates avec leurs lunettes cachées derrière un bureau à gérer des tas de dossiers, des piles de papier. Donc c'est vrai que c'est un domaine qui m'attirait pas du tout. Mais je me suis dit, écoute, c'est une nouvelle réglementation, elle a l'air assez intéressante. C'est surtout personne ne la gérait avant. Donc vas-y, tu verras bien. Donc vraiment saisir les opportunités et puis s'adapter. Quand on est jeune, on a cette chance de pouvoir changer un peu. Si ça nous plaît pas, de changer un peu son fusil d'épaule d'essayer de nouvelles choses. Donc, essayer plusieurs choses jusqu'à trouver ce qui vous va bien.
Essayer plusieurs choses jusqu'à trouver ce qui nous va bien. Ok, ça marche. Nous arrivons dans la dernière partie du podcast et j'aime bien terminer, Monica, par des questions un peu plus personnelles. Et du coup, je voulais savoir, en dehors du travail, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne comme ça dans la vie, en dehors de ton travail?
Alors, je vais être dans un premier temps assez basique. Hein. Moi, j'adore passer du temps avec mes amis, avec ma famille. J'adore cuisiner quand le temps le permet. Donc, et au-delà, je fais beaucoup de voyages. J'ai beaucoup voyagé dans ma carrière et même dans ma vie perso. Et j'essaie toujours d'intégrer des nouvelles recettes à ma cuisine, des nouvelles épices, etc. Donc, c'est un domaine que j'aime bien. Après, j'avoue que ce qui m'anime vraiment et et que j'adore, c'est assez, ça reste assez superficiel ou vu comme superficiel, c'est la mode. Je pourrais passer des heures à regarder les défilés de mode, à regarder les nouvelles collections. Donc, ouais, je pense que c'est un domaine qui m'aurait aussi plu d'intégrer. Ça s'est passé autrement, mais oui, ça, j'adore ça, cette partie-là.
Intéressant. Et je vais poursuivre avec une petite question que j'appelle la question Joker. Mmh. Donc, tu auras le choix entre plusieurs thèmes et du coup, tu me diras celui qui parle et que tu souhaiterais développer. Donc, je te propose trois choix. Mantra, œuvre d'art ou personnage ?
Oui. Alors, je vais choisir la partie... Enfin, je vais choisir le mantra parce que j'en ai un que j'essaie vraiment d'appliquer dans mon quotidien. Alors, ça peut peut-être résonner chez toi aussi ou tu les connais peut-être. Alors, c'est plusieurs citations, en fait, de personnalités importantes pour moi. C'est par exemple Obama avec « Be strong when you are weak ». Dr. King qui est « Be brave when you are scared ». « Be humble when you are victorious » de Mandela. Et « Be badass every day » de Malcolm X. Donc, c'est plusieurs petites phrases comme ça, mais que j'aime me répéter. Et en plus, ça vient de vraiment de personnes qui m'inspirent. Donc ouais, c'est mon mantra.
C'est génial, j'adore. Et pour finir, Monica, dernière petite question. Pourrais-tu compléter cette phrase ? Tu ne serais pas là si...
Je ne serais pas là. Je ne serais pas là si j'avais pas ma famille. Je ne serais pas là si j'avais pas fait toutes ces rencontres, positives ou négatives, qui ont finalement forgé mon caractère, ma personnalité et qui me permettent aujourd'hui de faire de moi ce que je suis.
Très bien, très bien. Merci Monica pour cet échange. Voilà, j'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les personnes aussi qui vont nous écouter voilà, vont vraiment être inspirés, vont ressortir de notre discussion avec plein d'énergie et également voilà, plein de petits tips et tout pour améliorer que ce soit leur recherche d'emploi ou même leur évolution enfin dans leur milieu professionnel tout simplement. Donc, merci encore.
Je te remercie aussi, Vanessa, pour cette opportunité. C'était vraiment super de pouvoir avoir cette discussion avec toi. Et comme tu le dis, j'espère que ça servira à inspirer les jeunes, nos jeunes. Voilà, c'est un domaine qui n'est pas très connu, le domaine des affaires réglementaires du grand public. Le mot n'est pas très explicite pour beaucoup de personnes, mais c'est un domaine très riche, qui est très évolutif et on a besoin de gens qui sont vraiment motivés. Et qui pense aussi différemment parce que on a besoin d'innovation aussi dans le domaine des affaires réglementaires. Donc, welcome.
Bravo. Alors, si vous avez trouvé cet épisode utile et intéressant, n'hésitez pas à le liker, le partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne Boost à Recherche d'Emploi Podcast. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à me contacter, à me suivre sur mes réseaux Instagram, LinkedIn. Je serai ravie d'échanger avec vous. Monica, si on souhaite te contacter, par quel canal peut-on passer ?
Alors, je vous propose de me contacter via mon profil LinkedIn, Monica Ducruet, Monica Dia Ducruet, vous me trouverez et n'hésitez pas à m'écrire si besoin.
Super, alors n'hésitez pas, portez-vous bien et à très vite. Salut Monica.
Merci Vanessa. Au revoir.